Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio.
Les yeux
levés
sur le ciel, when the sun goes down. Petit allumer le
siège,
quand c'est noir dans le downtown.
96.9, talk, rock and hip-hop.
96.9, CJMD, Lévis.
Intellectuellement libre.
Merci d'écouter Politique Correct, les paupiètes. C'est l'alternative radio ici. Je vous fais une météo un peu alternative encore une fois. Ça me tente moins vers les temps qui courent. On a moins 2 présentement, quelques nuages, un beau soleil. Ça, c'est positif. Et ça va perdurer jusqu'à jeudi, ce ciel ensoleillé-là. Mais pas chaud. Pas nécessairement très chaud. Puis là, bon, jeudi, je vois 7 comme le fun. Ça viendrait avec 5 à 10 millimètres, centimètres, pardon.
De neige?
Ah non, c'est de la pluie!
C'est ouais, de
la
pluie! C'est des millimètres de pluie.
Avec 7, ça aurait été spécial.
Ah, ben là, ça me va mieux. Ouais, ça, 10 centimètres de neige avec 7 degrés, c'est ouais. Plutôt rare. Ben, de la pluie avec 7 degrés, ça va être maussade, mais ça va faire fondre.
Un peu de neige peut-être mercredi. Je me suis tout mélangé dans ma météo, mais c'est une bonne nouvelle, finalement.
Ben oui.
Je vois vendredi prochain 9... Avec des belles heures d'ensoleillement. Ça va être la plus belle journée de 2018. On va se le souhaiter comme ça.
17h06. S'en viennent.
Ouais, il y a bien des belles affaires qui s'en viennent. Mais là, sérieux, la dernière couche.
Fait qu'un riz.
Faut qu'elle parte. Puis c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain que ça va se passer. Peut-être que ça va commencer mercredi. Voilà pour la météo. Sinon, sur une note pas mal moins sympathique, on voulait parler des dernières nouvelles concernant l'accident d'autobus qui a impliqué l'équipe de hockey de Junior A, dont on faisait la mention avant la pause.
Oui, les Broncos de Humboldt.
En Saskatchewan. Et là, tout le monde se demandait comment ça a pu arriver dans des places comme une place comme la Saskatchewan où il n'y a à peu près pas de courbe là, sur la route. Mais ben, c'est pas des jokes, j'ai
ouais,
circulé dans ce coin-là.
C'est vrai.
C'est droite, longtemps.
Mais en fait, ça s'est passé à une intersection, c'est au coin de la route 335 et de l'autoroute 35. Dans le fond, l'autobus circulait sur l'autoroute 35, puis il aurait supposément eu priorité, puis il y avait un stop au niveau de la route 335, d'où le camion qui est rentré dans l'autobus arrivait.
Oh.
Donc, il est vraiment arrivé, l'expression en anglais, c'est le T-bone. C'est vraiment, il est arrivé en T. Ouais. Ouais. Il est rentré dans le côté à pleine vitesse.
Oh.
Donc, c'est un événement qui est très tragique. On aurait 15 personnes décédées, pardon, et 14 qui sont blessées.
Là, le chiffre a-t-il été inversé parce qu'il y a eu des problèmes avec le coroner aussi? Est-ce que... Non, c'était juste trompé sur l'identité.
C'est ça. Effectivement, le coroner, M. Drew Wilby, qui s'est excusé auprès des familles via les différents médias, avait finalement eu un problème à... identifier l'un des corps. Donc, il y a un des jeunes qui s'appelle Xavier Labelle qui était déclaré décédé, qui finalement est l'un des joueurs qui a survécu. Sur une note plus tragique, Parker Tobin, qui lui que les gens croyaient qu'il était encore vivant, lui est décédé. Donc,
ajouter du drame au drame.
C'est ça. Donc, la première famille de M. Labelle, eux autres sont sous le choc. Complètement heureux de savoir que finalement leur fils, leur frère, leur ami qui croyait décédé finalement est en vie. C'est une nouvelle qui est extraordinaire. Par contre, pour la famille du jeune Tobin, qui eux autres avaient en tête, bon, on va aller rejoindre notre fils, on va le voir à l'hôpital, peut-être qu'il se servira peut-être plus de ses jambes.
Peut-être qu'il va être magané,
mais on va le prendre dans nos bras, puis que finalement, ben, t'arrives là-bas, puis tu te fais dire, non, finalement, il y a eu une erreur, il est décédé, mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile.
À la défense du coroner, les circonstances étaient particulières, puis tu me disais aussi qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les garçons en tant que tels.
Ouais, ben, ça faisait partie des excuses, en fait, de la part de M. Wilby, comme quoi il y a eu des difficultés. C'est un des rares cas qui sont très difficiles à identifier les défunts parce que, bon, c'est tous des jeunes qui ont tous le même âge, qui sont tous du même sexe, qui ont tous la même carrure, tous très athlétiques. C'est des joueurs de junior A quand même.
Habillés sûrement de la même façon.
Habillés, c'est ça, de des styles pareils. Puis qui étaient tous teindus en blond pour les séries, avec toute la même coupe de cheveux.
Shit, okay.
Fait que finalement, ça a rendu les choses très difficiles. Il a fallu qu'ils servent des empreintes dentaires, sauf que là, dans un accident comme ça, où est-ce que tout a pété.
C'est roche en plus, on veut savoir.
Il y a certaines empreintes dentaires qui ont dû être maganées un peu aussi. Donc,
à ta connaissance, le chauffeur de l'autobus, est-ce qu'il est décédé? Je ne crois pas.
Il me semble que le chauffeur de l'autobus est décédé. Je mets pas ma main au feu, mais je sais que le chauffeur du camion qui est rentré dans l'autobus, lui, s'en est sorti indemne.
Et...
sans blessure. Donc ça... permets-moi l'expression, mais le gars est fucké à vie.
Oh, ouais,
c'est clairement quelque chose qui traumatise un homme.
Mais je voulais finir avec ça. Moi, j'ai une tante qui est décédée comme ça. C'est pas parce qu'elle est verte ou parce que ton stop est fait que tu t'es obligé de pas regarder.
Effectivement.
Je veux pas accabler plus qu'il faut ce gars-là, nécessairement, le chauffeur de l'autobus non plus. Là.
Et on sait pas si le chauffeur du camion aurait peut-être pas fait son stop parce que semblerait-il qu'il aurait eu la priorité pour l'autobus. Mais dans le fond, on n'a pas encore vraiment les responsabilités ou comment ça s'est passé. C'est encore un peu nébuleux comment l'accident est arrivé.
Ouais. On va donner nos sympathies. Et Éric Lantier, qui est au bout du fil, voulait faire la même chose. Bonjour, Éric.
Oui, bonjour. Mais c'est sûr qu'avec des événements comme ça, je ne pouvais pas entrer en onde sans faire mes sympathies aux proches des victimes parce que c'est un événement tragique qui s'est produit en fin de semaine dernière et... ça a bouleversé presque toute la planète. En tout cas, l'Occident est impliqué là-dedans.
Ah, c'est dans les nouvelles partout.
Partout.
Ouais.
Oui, partout à travers le monde. Donc, je me dis, c'est extrêmement... des moments tellement pénibles. Et même un des pasteurs qui était l'aumônier de l'équipe qui a eu de la difficulté à s'exprimer hier lors de la cérémonie qui a eu lieu justement à Humboldt. Il y avait, comme on dit en bon québécois, le mouton dans la gorge. Et avec raison... il a suivi ces jeunes-là, il les apprécie. Il a certainement reçu des confidences de la part de ces jeunes-là. Puis de voir, de constater l'étendue des dégâts, ça a dû être terrible. Là.
Toi qui es un ancien directeur d'école et qui a travaillé dans le domaine de la formation des jeunes de plein de façons, je me demande si tu as un souvenir de quoi que ce soit d'équivalent, là, une équipe sportive des jeunes... En club décimé de cette façon-là. On a parlé de l'accident d'avion de l'équipe de soccer, mais c'était pas des jeunes là, qui étaient à la base du film. As-tu quelque chose qui te vient à l'esprit qui ressemble à ça? Oui?
Ouais. C'est ça. En 2007, au mois d'avril, écoute, ça va faire 11 ans, là. Ça fait longtemps, mais en même temps, c'est tellement frais dans ma mémoire. On part un samedi matin pour un tournoi de hockey avec des jeunes de l'école et des amis des jeunes. C'est une activité parascolaire et mon fils était dans l'équipe et un ami de mon fils, et je l'ai vu mourir devant moi. Oh. Et son père et moi, on était sur le terrain, arbitre, et il a perdu connaissance et je suis allé à l'hôpital avec son père et un autre jeune garçon et... on a constaté son décès à l'hôpital et j'ai dû, moi, préparer sa mère qui partait de Laval pour se rendre à Saint-Hyacinthe. Et c'était, imagine, c'est juste un, là, qui meurt.
Ouais, c'est ça. Ben oui.
C'était intense, là. Puis, quand j'ai annoncé la nouvelle aux jeunes qui étaient restés dans cette école-là pour leur annoncer la triste nouvelle, c'était quelque chose. Imagine quand il y en a 14, 15, là, ça doit être épouvantable. Vraiment, là.
Inimaginable, en fait. On va qualifier ça comme ça. Et la vie continue pour quand même les 14 autres. Ça sera pas facile pour un bout de temps. Il faut ce qu'il faut. Nous aussi, il faut qu'on avance. On va passer à d'autres considérations, mais quand même rester dans le domaine de l'éducation. Ouais. On est à la recherche, selon un article du Journal de Québec, ça c'est plus près de nous, au Québec, d'enseignants d'exception. Ça fait longtemps... que je parle de ça, qu'il faut niveler par le haut et donner un peu de compétition dans ce métier-là. J'ai l'impression que tu vas me parler de ça là, avec l'article en question.
Ouais, moi, je suis content que le Journal de Québec lance un peu un genre de concours pour essayer d'identifier les enseignants qui sont exceptionnels,
okay,
qui sont inspirants, qui sont passionnés, qui sont dédiés, qui sortent des sentiers battus pour amener les élèves à apprendre. Je trouve ça stimulant et je suis certain qu'il y en a des centaines à travers le Québec parce qu'il y en a qui font ce métier-là, ils exercent ce métier-là par passion. J'en ai connu, j'en ai côtoyé. Mais on n'en parle pas suffisamment. Et quand je lisais cet article-là, je me disais, on valorisait dans les années 70-80 cette vocation-là. Être enseignant, c'était du prestige, c'était prestigieux. Et maintenant, parce que, justement, on intègre tous les cas difficiles dans la classe, eh bien, ça devient plutôt ardu et non plus un métier passionnant parce que, à la fin des journées, les enseignants sont épuisés et vraiment, ça doit être un tour de force à l'heure où on se parle d'enseigner dans des classes où est-ce qu'on intègre parfois jusqu'à un tiers des élèves en difficulté.
Ben, ce qui doit te taper le plus, c'est moralement, tu sais que tu gaspilles du potentiel. Il y a des élèves qui vont se tourner les pouces alors que tu aurais pu les nourrir beaucoup mieux que ça s'il y avait eu un encadrement.
Ouais.
Qui a de l'allure. Mais bon, il y en a qui réussissent dans ce cadre-là quand même à sortir de l'ordinaire. Et on a vu ça des concours à certaines occasions, des meilleurs profs. Là. Est-ce que c'est la première édition pour le Journal de Québec, non?
Non, c'est la deuxième. Il y en a eu une édition en 2016.
Okay.
Et puis c'est pour ça qu'un des éléments, un des points de repère, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'un bon prof ou un bon enseignant va savoir comment gérer les élèves turbulents. Il va tirer son épingle du jeu. Et moi, je me dis, c'est là que ça m'accroche parce que, comme tu l'as soulevé, il y a des élèves qui sont réguliers, des élèves qui sont au-dessus de la moyenne, et ceux-là, pendant ce temps-là, perdent un peu de motivation, perdent d'être justement stimulés, encouragés, défiés. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru à un système à trois vitesses. Un pour les doués, un pour les réguliers, puis un pour ceux qui ont besoin d'un encadrement spécial.
On en a déjà parlé, puis on s'est entendu assez vite là-dessus. Les ressources, peut-être le problème. J'entendais, je crois, dans une autre station de radio récemment, quand dans les fatigants de pays scandinaves, c'est deux enseignants par classe, puis peut-être qu'on mélange plus. Est-ce que ça peut être une option qui serait valable aussi ou c'est vraiment les paliers, l'optimum de ce qu'on peut souhaiter?
Ben moi, je pense que c'est de payer en double. Moi, je préférais dire, séparons la classe en deux, puis ayons un enseignant qui se spécialise dans des cas spécifiques de troubles d'apprentissage pour justement qu'il développe une expertise puis qu'il devienne un professionnel de ces troubles d'apprentissage puis que l'enseignant soit motivé parce qu'il va voir du résultat. C'est ça qui est difficile pour un enseignant, c'est qu'il ne voit pas de résultat au bout de la ligne. Tout ce qu'il fait, c'est éteindre des feux puis qu'il est hâte aux vacances.
Ça finit par taper sur le système requin. Tu ne peux pas voir les effets de ton labeur, effectivement.
Mais si on voit seulement le premier objectif de montrer des modèles de professeurs, ceux qui inspirent, ceux qui ont une largesse de connaissances et qui veulent le donner aux élèves, ça, c'est déjà un bon point.
Des crinqués, des communicateurs, du monde qui trouve des façons originales.
Les top modèles. Là.
D'amener des affaires.
Et c'est pour ça que moi, je suis en faveur de ça. Je suis en faveur de... Il faut élever, justement, ceux qui se donnent, ceux qui mettent de l'énergie et le soulever. Puis ne serait-ce que certains sont... Imagine qu'il y en a qui sont identifiés, même s'ils ne gagnent pas le concours, mais de savoir, j'ai fait partie de ceux qui auraient pu être choisis, déjà, c'est encourageant.
Certainement. Une autre chose d'encourageante que tu voulais nous amener, ben ça dépend pour qui. La fin des écoles de filles, là, j'ai juste cette note-là dans mes affaires. Est-ce que c'est une annonce un peu pompeuse ou c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment arriver? Là?
Ben écoute, oui, on va voir arriver la fin des écoles de filles parce que justement l'offre est là, mais la demande est de moins en moins grande. Et on a, par exemple, une école qui est une école publique, pas une école privée, l'école Marguerite de La Jemeraie, qui est située à l'est de Montréal, fondée par les Sœurs Grises en 1964.
Okay.
C'est la première école publique qui est réservée aux filles à la Commission scolaire à Montréal. Et c'est une des dernières au Québec. Il y en a quelques-unes au niveau privé. Mais...
J'avais aucune idée qu'il y avait des écoles de filles au niveau public comme ça. Alors là, ça, c'est clairement la fin, OK, avec celle-là.
Oui.
Qui s'amène, mais dans le privé, ça peut demeurer, ça?
Mais il en reste, je pense, selon mon calcul, il en reste deux dans la région de Montréal. Évidemment, les Sainte-Marceline, qui est à Taraguay, là, qui est une école mixte au primaire, mais pour filles seulement au secondaire. Il y en a une autre. Mais ce qui arrive, moi, je suis partisan des écoles pour filles, des écoles pour garçons, parce que ça amène des stratégies pédagogiques beaucoup plus simples. Moi, j'ai été, par exemple, dans une école publique au secondaire, où est-ce qu'il y avait juste des garçons, puis en secondaire 5, on est devenu mixte. J'ai comme vécu les deux.
Ouais.
Et je peux te dire une chose, là, le climat a changé totalement dans la classe quand les filles sont arrivées.
Ouais, c'est sûr, ça peut émoustiller un peu. Olivier Fortin-Thibault avait un ajout, une question?
Ouais, ben. Ma question, moi, c'est à me demander, est-ce que vraiment la solution est des écoles pour gars, écoles pour filles, ou est-ce qu'on devrait peut-être pas faire des écoles mixtes pour qu'ils apprennent à se côtoyer? Parce que aussi, comme tu dis, quand tu as passé 4 années à être juste entre gars puis que tu viens garocher des filles d'Alta, ça t'en dérange une couple.
Mais dans la classe, peut-être.
Mais effectivement, est-ce que qu'on pourrait pas faire des écoles mixtes, mais avec des classes séparées, ou est-ce que, bon, les deux sexes se côtoient dans les aires communes, dans la cafétéria, aux pauses, etc., mais que dans les classes, on a des méthodes d'apprentissage différentes?
Intéressant.
Ouais, ça, c'est intéressant parce que, justement, la question, moi, c'est pas que les gars soient avec les filles qui me dérange, c'est que les garçons, et c'est prouvé, et même on se penche là-dessus quand on évalue le décrochage scolaire, on se dit toujours, ah, ben les gars, ils ont un recul parce qu'ils apprennent différemment des filles. Mais là, ça serait le temps, justement, d'avoir des classes de gars,
spécialement
ceux qui sont en difficulté d'apprentissage. Et moi, je trouve intéressant, c'est un beau compromis, je pense, une belle intersection, d'avoir des classes séparées, mais dans une école mixte.
Je pense que ce serait une belle formule.
Bah, tu peux apprendre à croiser un peu, pareil.
Ben, faut que tu apprennes aussi que c'est pas des bébites extrêmement différentes non plus.
Ouais.
Puis que tu peux les côtoyer, puis que ça se passe bien, là. T'sais.
Merci de récupérer mon call de mon oncle.
Je me rappelle, moi, que je pense que je l'ai souligné, c'est que l'école secondaire Joseph-François Perrault, seulement, il y avait un des garçons dans le temps.
À l'époque.
Puis là, ils l'ont mixé.
Ouais.
Alors, ça a dû bien régler les choses.
Vous avez connu le mix, M. Damas?
Non, à
l'époque, c'était juste des gars, puis ça finit de même.
Des gars.
OK.
Mais je voulais revenir aussi. C'est que, traditionnellement, historiquement, les écoles de filles ou les écoles de gars, il y avait c'était à l'origine, il y avait du religieux là-dedans.
Oui,
effectivement.
Parce que ce sont des congrégations religieuses qui avaient créé ces écoles, particulièrement pour ces sexes. C'est ça.
La dernière, à ma connaissance, c'est Jésus-Marie à Québec, puis c'est justement une congrégation, religieuse.
Il n'y avait pas les Ursulines.
Les Ursulines.
Oui, puis il y avait Marguerite Bourgeois aussi.
Oui, Marguerite Bourgeois.
Quatre Bourgeois, je pense. Ça a fermé, ça fait un bon bout de temps. Oui, bien, on a quasiment réglé le cas. Hein? On fait des classes de gars, puis dans des écoles mixtes.
Merci, bonsoir. On règle le problème.
Hein, Eric?
C'est vrai, c'est réglé.
On peut passer au prochain sujet. Mais je pense que ça pourrait revenir sur le plancher, éventuellement. On change de registre, on laisse ton domaine de prédilection de l'éducation pour en traiter d'autres que t'apprécies aussi quand même.
Ah oui.
Prestation de service à visage découvert avec la loi, je crois, 59 là, de Mme Vallée qui faisait que quand on va, exemple, rentrer dans l'autobus, il faudra se découvrir un instant au moment de la prestation de service. Là. Il y avait eu beaucoup de tergiversations là-dessus. On était parti aussi de volonté, peut-être, d'interdire les signes ostentatoires, tout simplement pour les personnes en autorité qui travaillent pour l'État. Là, on a amené ça même à la clientèle, mais de façon très édulcorée, juste au moment de la prestation de service.
Juste pour l'identification et ensuite, c'est correct.
Ouais, c'est lorsqu'on l'amène dans la civilisation, dans la société, que c'est plus complexe.
Ouais, et là... Là, il y a des délais qui se prolongent pour l'application de cette petite version de la loi sur la laïcité, là, ou non, de l'État.
Ouais.
Ça niaise.
La neutralité de l'État, oui, effectivement.
Oui, merci.
Oui, c'est ça. C'est parce que la loi a été adoptée en 2017 et il y a un article de la loi qui dit que, justement, tous les accommodements prévus concerne les services à visage découvert dans les commissions scolaires, dans les services de transport, dans les universités, dans les villes, doivent être réglés d'ici le 1er juillet. Donc, la ministre doit fournir un guide d'application des accommodements prévus par cette loi pour gérer d'une manière respectable et responsable les services à visage découvert.
Mon palais.
Oui, c'est ça. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir livrer la marchandise parce que respecter la loi. Et justement, les tribunaux attendent cette, disons, ces articles-là définis.
Ouais. On sont capables d'attendre des tribunaux au Québec. On est bon là-dedans. L'attente dans les tribunaux. Stéphanie Vallée me semble plus occupée par ses projets d'après-carrière que ce qui se passe. Parce que là, elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas en octobre.
Ouais.
Plus préoccupée par ça que par ce qui se passe actuellement. Mais comme tu dis,
ouais,
pas le choix de la fournir. En même temps, on s'était engagé à ce que la légalisation de la marijuana arrive justement, je pense que c'était le 1er juillet aussi, là, c'est au fédéral.
C'est le 1er juillet.
Ça se prolonge, des choses comme ça, puis on va, avec ça, assurément, se faire mal au Parti libéral auprès de sa propre clientèle de base dans les comtés sûrs à Montréal. Est-ce que tu serais willing de prendre un petit pari avec moi, Éric Lantier, sur le fait que on n'aura pas cette liste de façon d'appliquer les règlements, ces détails-là, avant la campagne, après la campagne électorale? Un petit 10.
Écoute, d'un côté, moi, ce que j'ai appris en coulisses, c'est que ce qu'on dit dans les bureaux là, du ministère de la Justice, c'est qu'il y a une loi, ils doivent se soumettre à la loi. D'un autre côté, ce qui arrive, c'est que le 1er juillet, les gens sont en vacances. Donc, si on tergiverse, ça va passer incognito.
Ouais.
Si on rentre en septembre, ça va être comme du passé.
Ah.
La chose qui arrive, ça, c'est une façon d'interpréter. L'autre façon d'interpréter, c'est que puisqu'on arrive en automne électoral, c'est sûr que s'ils ne livrent pas la marchandise, le Parti libéral, la CAQ, le PQ, Québec solidaire vont se dire, vous êtes même pas capable de régler la question, on vous a élu en 2014 et vous avez juré que vous aviez réglé la question, vous êtes même pas capable, et là ça donne des munitions à l'opposition. Alors s'ils règlent ça, eh bien au moins ils vont pouvoir dire, on a réglé mais vous avez une mauvaise attitude et puis vous êtes juste des électoralistes, vous l'opposition. Alors j'ai l'impression, bon ils iront en faveur de ce qu'ils vont y sortir les règles du jeu.
Vous êtes juste des nationalistes ethniques avec le PQ qui s'est allié au Parti libéral pour essayer de faire mal paraître la CAQ, mais qui, quand va arriver, là, ils ont annoncé au cours des dernières heures qu'ils se donnaient un an pour régler les accommodements religieux avec l'État. Ils n'auront pas le choix. Ben ouais, un an, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à après l'élection, en fait. Donc, on voit que l'ennemi à abattre est déterminé assez clairement. Les stratégies se peaufinent, puis j'ai plus le goût de parier 10 piastres. Finalement, je retire mon...
Un petit scoop.
Oui, donc?
Oui.
Ouais. Ce que j'ai su en coulisses, là, c'est que le Parti libéral regrette d'avoir inséré la question des services à visage découverts dans cette loi-là.
Mais oui.
C'est qu'il aurait dû la passer sous la loi de la sécurité publique. À ce moment-là, s'il avait dit on veut des services donnés à découvert ou reçus à découvert à quelqu'un qui arrive, par exemple, avec une cagoule, quelqu'un qui arrive avec un max de panda,
oui.
Là, c'est une question de sécurité publique. Là, on dépolarise sur la question religieuse.
Oui.
Et là, après coup, ce que j'ai su dans les coulisses, c'est qu'il aurait dû aller sur cette avenue-là et là, il aurait gagné sur toute la...
Dans ma tête, ça en dit beaucoup sur Philippe Couillard qui a mis ses deux mains. Je vous donne une image, là, puis pensez pas sexuel. Stéphanie Vallée est là, puis elle essaye de façonner quelque chose. Là. Mm-hmm. Puis Philippe Couillard, il se pointe en arrière, puis il se met deux mains dedans. Puis il défait, non, c'est pas ça, finalement. Puis là, après ça, elle sait pas trop ce qu'il a fait. Puis c'est elle qui doit donner des explications. Ça donne des revirements réguliers, là, vraiment tout le long de la préparation de ce projet de loi-là. Puis avec son amenée à l'Assemblée nationale, elle s'est contredit régulièrement. Et là, j'entends ça, c'est du grand Couillard qui a beaucoup de difficultés à prendre des décisions dans ce sens-là. Il est très sensible avec tout ça, il veut plaire à tout le monde, puis il a de la difficulté à se fixer. Et il a fini par se fixer une fois que la colle avait pogné. C'est assez pathétique, ça fait dur.
Ouais. Tout à fait. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus. Puis c'est un peu dans ce sens-là que Mme Fatima Ouda-Pépin lançait justement sa sont descriptifs de ce qui s'est passé là, dans les années antérieures à ce sujet-là.
J'ai-tu entendu Philippe Couillard dire que le voile était un signe d'asservissement de la femme? Ça vient de me traverser. Je pense pas.
Il y a des gens qui le pensent, mais qui vont pas le dire nécessairement en public. Sûrement, ça a été répété par des gens qui l'ont entendu.
Pas Philippe Couillard, tu sais. Mais ça demeure. Puis c'est aussi un signe de volonté d'intégrer la religion à la politique. C'est rempli de significations qui vont à l'encontre de valeurs qui sont communes dans 95% de la population du Québec. Puis d'endosser ça, c'est toute une pirouette intellectuelle. Philippe Couillard, dans ce domaine-là, il est capable. Et c'est de la même école que Justin Trudeau t'a vu récemment avec les policiers.
Oui, c'est ce que je pensais.
C'est de Demers.
Quand Mme Valérie Plante, Mme Plante, elle a remis le dossier justement à la direction du service de police de Montréal pour la question identité.
Ça se dit, on vous aime, mais il y a des problèmes avec ce signe-là. Surtout que c'est une religion. On vise pas une race, on vise une religion.
Puis encore là, on vise même pas une religion, on vise un mode de...
D'interprétation de notre religion.
C'est ça.
On parle même pas nécessairement de la religion musulmane, on parle du voile qui est l'un des aspects, l'une des manières de démontrer sa religion, mais c'est même pas à la religion qu'on s'attaque, c'est même un peu plus
solide.
À un signe physique, un peu comme si on interdisait un kirpan. On s'attaque pas à la religion, on dit le kirpan, on le veut juste pas.
C'est ça, t'es en situation d'autorité. Si t'es pas capable de faire profession de foi en premier au gouvernement, ben, tu peux pas rentrer en situation d'autorité à son emploi. C'est assez simple, il me semble. Puis il y a des gens qui sont pas capables de mettre le pied à terre assez pour ça. Puis c'est beaucoup en raison de considérations électorales. Philippe Couillard, sans les circonscriptions où il y a beaucoup de gens en provenance de ces pays-là, il peut vraiment se mettre dans le trouble. Ça peut être fini pour le Parti libéral s'il se met à dos les communautés culturelles qui se tiennent entre elles. C'est pas nécessairement aussi juste les musulmans, en passant. Ils vont des mesures comme ça, qui vont à l'encontre de quoi que ce soit qui est culturel d'origine étrangère, ben c'est comme une traînée de poudre, ça a une perception qui se répand négative envers le parti qui l'a amené, puis ça peut faire beaucoup de ravages, surtout un parti qui mise là-dessus, comme le Parti libéral.
Effectivement.
Ça ressemble à ça, par les temps
gros. Comment peut-on... Il y a beaucoup de misère, le gouvernement du Québec, à essayer d'appliquer quelque chose pour obliger les serviteurs de l'État à être neutres.
C'est ça. Ils ne sont pas capables.
Ils ne seront pas capables.
On vient de pas mal l'expliquer.
Mais oui.
Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'on a une charte qui donne justement une liberté de pratique religieuse et puis liberté de conscience. Et donc, ça devient difficile parce que c'est certain que des gens qui tiennent à leur symbole, à leur signe, vont contester fort probablement justement la légitimité de l'interdiction, d'interdire par exemple un voile. Et c'est pour ça que moi je trouvais que c'était un bon point de départ de dire, dans un premier temps, là, on va mettre les choses claires, on va offrir les services, on va recevoir les services à visage découvert. Parce que là, on touche pas à la religion, on touche à l'identité, on touche à la communication, on touche à la sécurité publique. Et je trouvais que c'était un bon point de départ. Parce qu'il y a tellement d'éléments là-dedans qui peuvent nous faire déraper. Puis au bout de la ligne, après 10 ans et plus de Bouchard-Taylor, on n'a rien réglé. Je me dis, au moins si on peut régler ça, c'est un bon point de départ.
Puis ça empêcherait des dérapages du genre la meute, puis des votes vraiment avec des considérations ethniques. Les gens qui comprennent pas toute cette game-là, souvent, ça va les radicaliser, ça va les faire virer extrémistes. Je veux rien savoir de rien, puis c'est toute de la merde de reste, puis etc. Alors, avec ces tergiversations-là, Je vais reprendre les mots de Jean Lapointe qui étaient exagérés tantôt, qui le seront peut-être un peu, mais il y aura des morts sur la conscience de ces politiciens-là. Ça nourrit l'extrémisme, ce qu'ils font là. Mais en passant, juste de même, moi je suis pas un gars de laïcisation à tout craint. J'aime pas les religions en général. La religion catholique, par exemple, a montré que c'est grave ce que je dis là, pareil. Les sociétés occidentales, là, c'est chrétien, pas que la religion catholique, c'est la chrétienté. C'est la chrétienté qui est derrière les sociétés les plus confortables au monde qui suscite de l'immigration, et ce n'est pas le contraire. Je le dis, je fais rien que dire ça, là. Je veux pas considérer nécessairement une religion meilleure qu'une autre, mais c'est à la base de l'histoire, du patrimoine, etc. Alors, on a peut-être moins à cacher ça que d'autres choses qui, souvent, sont des signes qui veulent le débarquer ça, qui veulent aller à l'encontre de ça. Puis, je vais finir en allant de l'autre côté. Quelqu'un qui a une croix de Jésus tatoué d'en face. J'en veux pas comme police non plus. Pas plus que quelqu'un qui a un signe qui me dit « Je mets ma religion avant ma job pour l'État alors que je suis en position d'autorité.
Ouais. » C'est tout un débat, hein?
Ouais. Puis il faut vrai. Aller en tous les sens. On n'est pas obligé d'être polarisé là-dedans.
Ouais.
Je viens de le faire pas mal. Merci, Éric Lantier.
Toujours merci, un plaisir. Merci.
On se répète ça la semaine prochaine.
C'est bon, au revoir.
Salut mon ami, Éric Lantier, qui est un ancien directeur d'école, qui a une maîtrise en éducation et qui est chroniqueur à bien des endroits. Un polémiste qui aime bien les discussions sensées. Si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire, écrivez-nous à Politigui Correct sur Facebook. Il y a aussi le 581-511-96. On va vous lire par Text Now, qui est une belle petite application qu'on a mis en place